Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. En avril 2022, dans le livre On the Verge, paru aux éditions Robert Laffont que j'ai écrit, il y a un chapitre avec Yann. Ce dernier est un homme d'affaires bourgeois le jour, soumis et humilié par sa domina la nuit. J'ai lu pour le podcast quelques chapitres du livre, dont celui de Yann qui est dispo, je vous mets d'ailleurs le lien dans la note si cela vous intéresse. C'est à la suite de son écoute que David, 53 ans, m'a contacté. L'histoire de Yann, qu'il a écouté plusieurs fois, lui parle beaucoup. Lui-même a vécu ses épisodes de sexualité dite « kinky », une découverte plutôt classique avec des filles et aussi quelques garçons pour explorer son hétéroflexibilité comme il le précise dans sa jeunesse. Aujourd'hui marié, 3 enfants, il vit avec sa femme des jours heureux avec une sexualité qui jongle entre tendresse, sexe vanille et sexe kinky. Tous deux ont les mêmes envies et désirs. Toutefois, des choix professionnels trop lourds engendrent un besoin de fuite. Il choisit de consulter des dominas et de passer à l'acte lors de séances BDSM tarifées. Il s'offre également des séances de massage tantrique qui sont plus sensorielles, érotiques et charnelles. Mais un jour, sa femme apprend que son mari paye pour du sexe. Entre discussions sincères, doutes, thérapie et amour, bien sûr, David nous explique comment ils ont réussi, avec son épouse, à dépasser cet épisode de leur vie de couple et ont décidé de rester ensemble. Tout n'est pas encore revenu à la normale au moment où on enregistre, hein, précise-t-il, mais ils y travaillent avec force. C'est un homme amoureux, reconnaissant et en plein travail sur lui qui se raconte au micro de On the Verge pour ce 81e épisode. On parle beaucoup du couple, de qu'est-ce que l'infidélité et on s'interroge sur pas mal de choses avec David. C'est, je trouve, très intéressant. Et également, 1000 excuses pour la qualité sonore de cet épisode. Nous avons enregistré à distance parce qu'effectivement, c'était compliqué pour David et moi de trouver un lieu pour nous rencontrer. Ça a été du homemade et vraiment, j'ai passé énormément de temps à nettoyer la piste de David qui, vous l'entendrez très vite, à un frottement sur le micro. Donc j'ai fait vraiment le maximum. J'ai d'ailleurs vraiment appris beaucoup de choses sur mon logiciel de montage du coup pour que la piste soit optimale pour vous. Donc 1000 excuses pour la qualité audio. Je sais qu'il y a certains auditeurs, auditrices qui sont très sensibles. Vraiment, j'essaie de faire le maximum, mais là, j'ai vraiment pas pu faire mieux. Donc je vous déconseille de l'écouter avec des écouteurs si vous êtes sensible. Pas mal de petits sauts de son. J'ai essayé de lisser au max. Donc voilà, désolé encore une fois. Et n'hésitez pas à venir discuter sur le Discord hein, de cet épisode et des autres. Super intéressant, moi, je trouve, d'échanger... Avec vous et surtout il y a certains invités qui sont dans le Discord donc c'est encore plus intéressant. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec David qui est quelque part dans le nord de la France. David a une cinquantaine passée. Ça va, David ? David, ça fait depuis mars dernier, je crois, que nous échangeons, toi et moi, et on a enfin trouvé une date, donc je te remercie. David, je vais te poser la toute première question que je pose à tous mes invités et que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Ah bah dis-moi, écoute, cette question, je ne m'attendais pas du tout à cette question, c'est étonnant quand même.
C'est une surprise, rien que pour toi.
Voilà, c'est gentil. Eh bien voilà, écoute, moi, mon premier souvenir, il date de l'école, en fait, c'est vraiment lié à l'aspect scolaire.
Ouais.
J'avais 8 ans, donc j'étais en CE2, et en fait, on avait des cours de piscine, des cours de bassin, comme on disait à l'époque. Et voilà. Et je me souviens très bien d'un moment où on avait une espèce de routine. Il fallait sortir du bassin au moment où le sifflet sonnait. Donc, on parle de quelque chose qui se passait dans les années 70. Donc, forcément, c'était une autre manière de faire. Et donc, le professeur sifflait et tout le monde devait sortir du bassin à la seconde, en quelque sorte. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était institué de cette manière-là. Et je me souviens très bien que je me suis retrouvé un jour de bassin, euh, voilà, on était tous dedans. Et le sifflet résonne, et à ce moment-là, je me retrouve au plein milieu du bassin, et en une seconde, tout le monde sort du bassin, je suis seul dans le bassin. Donc vraiment le
parce
truc.
Parce que t'es pas assez près du bord, quoi.
Voilà, je suis pas près du bord, etc. Donc je dis merde, je vais me grouiller, je vais y arriver, etc., etc. Et ce moment-là, je ressens une de ces sensations dans mon caleçon, un truc de dingue. Vraiment un truc comme un orgasme, ou enfin évidemment un orgasme à 8 ans c'est pas possible, donc c'est un truc, mais vraiment un truc.
Mais en tout cas une chaleur, quelque chose de
vraiment,
significatif.
Quelque chose de super agréable, et en fait cette sensation a fait que j'ai mis un temps de fou à rejoindre le bord, tout simplement pour en profiter un max. Et je suis sorti de la piscine, donc forcément en retard, et c'est tout, il s'est rien passé, c'est vraiment le souvenir que j'en ai.
Et tu arrives à expliquer qu'est-ce qui a déclenché ça?
Non, enfin, à vrai dire, j'en sais trop rien. C'est vraiment une sensation qui est arrivée. Pourquoi est-ce que j'assimile ça à un orgasme, ce qui n'a pas de sens pour un gamin de 8 ans, évidemment, c'est que j'ai eu la même sensation une autre fois, mais l'année d'après. Donc là, à ce moment-là, j'avais 9 ans, j'étais en CM, en CM1. Même chose, c'est un peu un cours de sport, c'est pas la piscine, c'est dans ces écoles à ce moment-là, ben il y avait un problème dans les vestiaires, il fallait qu'on se déshabille en classe. Donc c'est-à-dire que on allait j'étais dans une école mixte, il y avait pas de souci vis-à-vis de ça. À 9 ans, on se déshabille pour s'habiller pour aller au cours de gymnastique, d'éducation physique et on revient du cours d'éducation physique et on doit ben forcément se rhabiller dans l'autre sens. Et un peu même topo, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que je me retrouve en retard également. Donc, c'est un truc où, voilà, je me retrouve en retard et je me retrouve en slip devant tout le monde, quoi. Donc, et ça, à ce moment-là.
C'est un peu. C'est horrible. Il y a des enfants,
c'est
leur cauchemar.
J'étais le seul en slip. Donc, c'est-à-dire que tout le monde s'était rhabillé et moi, j'étais le dernier, en quelque sorte, quoi. C'était vraiment le truc improbable, quoi. Je sais pas ce qui s'était passé. Bon, voilà, j'avais mis du temps et peu importe. Et à ce moment-là, le prof me dit une remarque. Bon, David, dépêche-toi, quoi. C'est même chose. Le truc revient, c'est-à-dire que je dis putain, la sensation qui réchauffe le truc. C'était vraiment localisé. Je veux dire, c'était vraiment tout à fait. Au niveau du sexe,
ouais,
c'était
ouais.
Tout à fait évident. Et voilà, quoi, c'est un truc.
C'est intéressant que ça arrive dans des moments comme ça, un peu de gêne, où t'es au centre des regards, où t'es un peu à la traîne. Enfin, c'est intéressant, je trouve qu'il y a une similitude dans les deux
Exactement,
situations.
Exactement, je crois que. Bon, je l'ai creusé, en fait. Bon, je l'ai découvert un peu par la suite. C'est quelque chose qui est. Voilà, il y a un effet sans doute. Un peu exhibitionniste ou quelque chose qui fait que voilà je me sens dans une situation, je pense que enfin ce que j'ai lié à ça bon je reconnais je suis en analyse en fait je suis suivi par une psychothérapeute et on a analysé la chose pour savoir ce qui se passait, pourquoi est-ce que subitement c'était ça qui se passait, et en fait c'est un peu une sensation d'humiliation qui fait que je me sens voilà, ça me met dans cet état. Alors à 8 ans on se dit bon c'est le genre de truc c'est improbable. Mais vraiment, j'assimile ça à une sensation de plaisir intense, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment.
J'entends. Est-ce qu'on parlait alors de sexualité à la maison facilement?
Alors, pas du tout. Hein. On se remet dans les années 70. C'est le genre de truc. Je viens d'une famille nombreuse, donc c'est-à-dire qu'on était quatre enfants. J'avais un frère, deux sœurs. J'étais donc voilà, c'était deux garçons, deux filles. J'étais un des plus petits, j'étais l'avant-dernier, c'était quelque chose qui oui voilà, on parlait pas de sexualité, il y a pas de problème vis-à-vis de la sexualité, c'était pas ça, mais c'était pas évoqué, c'était simplement un sujet qui n'était pas du tout
Pourtant t'as grandi dans une époque aussi, enfin adolescente etc, où c'est un peu plus libre, c'est les années 80, il y a un peu plus de tu vois, à la télé, il y a quand même, enfin, il y a une nudité qui est un peu plus présente, etc. Tu te rappelles un peu de ces années-là ?
Je m'en souviens très bien. C'était encore très, 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 très vif. Il y a, oui, t'as raison. C'est vrai que c'était les années où t'avais Sexy Folie sur Antenne 2 ou des choses comme ça, des trucs qui arrivaient un peu plus. C'est Mitterrand en fait. Hein, c'est comme ça que ça s'est un peu libéré. Avec Polak et toute la bande et tout ça, enfin la parole s'est un petit peu libérée, mais quoi qu'on en dise au niveau des familles,
pas au sein
c'était
des foyers,
pas plus
quoi.
Bon non pas du tout, je crois que après dire On peut même revenir à plus récemment, je crois que ça reste quand même un tabou, il n'y a rien à faire, c'est même au sein des familles.
Toi, tu as des ados, tu as trois ados, tu parles de sexualité, oui, à la maison ?
Alors, en fait, ce qu'on a pris comme parti, c'est de dire on n'en parle pas de manière volontaire, c'est eux qui posent des questions. Mais, donc, c'est-à-dire que s'ils ont des questions à poser, ils nous les posent.
Mais
quoi.
Ils
donc,
savent qu'ils peuvent vous les poser, il n'y aura pas, y a pas de
alors,
gêne.
Alors, il y a... en fait, c'est très drôle parce que chez les ados, malgré tout, il y a de la gêne.
Ah bah oui.
Quoi. C'est-à-dire que on est leurs parents aussi, hein, donc voilà.
Oui, puis je pense
donc
que c'est une partie du processus aussi, quoi, qu'il y a une distance là-dessus avec les parents.
Voilà, je pense que c'est ça. C'est les ados, finalement, ils parlent pas tellement de sexualité avec leurs parents. Pourtant, on est tout à fait ouvert vis-à-vis d'accord. de ça, et c'est le genre de questions qu'ils peuvent tout à fait évoquer. C'est vraiment ouvert.
Ouais, peut-être que le fait de savoir déjà que vous êtes ouvert et que vous êtes disponible, peut-être que ça suffit finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être juste de se dire que nos parents sont là s'il y a besoin. C'est
voilà.
déjà une tranquillité d'esprit. Si on va pas rentrer dans le détail si t'as des filles, des garçons, mais que ce soit de la contraception, des choses comme ça, s'ils savent qu'ils peuvent vous poser des questions ou être accompagnés, peut-être que c'est pour le moment, en tout cas dans leur adolescence et
voilà.
en fonction du stade où ils sont, ça suffira. Ok.
Exactement.
Et toi, ton adolescence, comment ça se passe ? Comment tu rentres dans ta puberté ? Comment tu... Donc tu dis que tu as une fratrie, donc tu vois un peu tes sœurs, ton frère évoluer. Comment toi, tu vas prendre en main justement cette puberté ?
Mais écoute, moi, c'était pas tellement des échanges avec mes frères et sœurs qui ont mené ma puberté. Je me souviens très bien que j'avais des bons copains à l'école. Et en fait, comment j'ai appris la manière dont faisaient les enfants, par exemple, c'est des copains qui m'ont appris
ah
ça.
Ouais.
C'est pas mes frères et sœurs, c'est pas mes parents, c'est vraiment des copains. Et moi j'ai appris ça, je dirais en CM2, quoi, à 10
d'accord,
ans, donc ce qui
okay.
est quand même pas très tôt, mais on se remet dans le contexte des années 70, c'est pas le genre de truc que. Et en fait, j'avais un espèce de copain très très déluré. Qui faisait que il était déjà en train de d'embrasser des filles, des choses comme
en
ça
primaire?
Et voilà, c'est ça.
Ah
oui,
ouais,
tout à fait, il embrassait des filles. Bon, c'était très 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 sage
et
enfin
intéressé primaire, quoi.
Exact, quoi, comme une espèce de petite avance comme ça sur les autres peut-être, et quoique bon, physiquement il a tout d'avance sur moi par exemple, c'était pas du tout le cas, il avait pas d'avance physique, mais c'était chose qui le titillait en quelque sorte. On rigolait sur ces questions là et t'as vu la fille là, elle a des gros nénés, elle est super, etc. Enfin, c'était de ce genre de discussion, mais
oui.
Bon, voilà, c'est
souvent la reproduction du schéma familial. Je pense qu'il entendait ça à la maison et que ça le faisait.
Voilà, mais c'est ça, c'est un
et
peu
ça. Quand les hormones commencent à faire leur job, comment ça se passe ?
Mais ça se passe plutôt bien.
Ouais.
Je n'ai pas une souvenance de souffrance ou de quoi que ce soit. C'était plutôt smoothly, quoi. C'était vraiment le genre de truc qui s'est passé assez facilement. Je me souviens par exemple de ma première masturbation. C'est un truc, c'est assez étonnant ce genre de truc, mais c'est pas inné, je veux dire. Comment est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, je me souviens d'un truc, c'est le bon copain là dont je parlais tout à l'heure. Il me disait, mais tu sais, on fait l'amour comme ça, c'est comme ça que t'es né, voilà. Bon, et là, un jour dans ma chambre, je me suis imaginé comment est-ce que ça pouvait concrètement se faire.
Ouais.
Quoi. Et c'est-à-dire, je me suis, j'ai simulé la scène avec un coussin,
d'accord.
Voilà, sur un coussin, et en fait j'ai joui.
Et là t'étais au collège, t'étais quoi au collège ?
Et j'étais, je sais pas non, là j'étais, oui j'étais au collège, voilà c'est ça, c'est ça vers 11-12 ans, j'étais soit en 6e, soit en 5e, je sais plus très bien, mais et après voilà, j'ai compris ce que c'était un orgasme, donc c'est un vrai par rapport à ceux que j'avais eu avant. Et c'est parti, donc voilà, j'ai compris comment ça fonctionnait.
Donc là, c'est comme ça que tu commences à connaître ton corps, à rentrer dans la masturbation,
voilà.
et à commencer effectivement à te caresser ou faire du humping, comme on dit quand on se frotte comme ça sur un matelas, un coussin ou que sais-je. Ok, donc du coup, tu comme ça, tu tâtonnes, j'imagine, t'as ton bon pote là qui me tuyote un peu sur les dos. Et comment ça va se passer ? C'est les filles que tu vas regarder, toi ?
Alors c'est oui, j'ai regardé les filles à ce moment-là, Et alors, je reconnais que si on repasse un peu en avant, vers 7-8 ans, donc CE1, CE2, j'étais plutôt attiré par mes copains. Alors, c'est un truc qui ne s'est pas confirmé par la suite, mais j'étais pas du tout attiré par les filles à ce moment-là, mais j'étais plutôt attiré par mes copains. Donc, c'est-à-dire que, mais c'était pas, je pense que c'était plutôt de l'amitié, je sais pas très bien, c'est difficile à décrire.
La frontière à ces âges-là, elle est pas simple à comprendre.
Voilà. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Par contre, dès la puberté, c'était les filles. Je dis, bon, je me souviens très bien de la première fille dont je suis tombé amoureux. Mm-hmm. C'était à 12 ans, j'en avais rêvé toute la nuit, le lendemain j'en étais bleu raide, c'était je pouvais plus m'en séparer, c'était le truc et voilà. Et alors c'est resté platonique comme ça pendant tout un temps. En fait, j'ai eu une adolescence où je suis plutôt un tardif, moi. Donc c'est à dire que je suis pas sorti avec ma première fille très très tôt, c'était même plutôt très tard, on le verra par la suite, mais je suis vraiment tombé comme ça éperdument amoureux de toute une série de filles pendant plusieurs années. Et il a fallu attendre vraiment bien tard avant que j'en convainque une, quelque sorte.
Tu tombes amoureux d'elle, mais tu te déclares ou c'est vraiment...
Vraiment totalement platonique. Je n'osais pas, c'est un temps de trucs. En fait, je lui offrais des chocolats, j'essayais de me faire remarquer en quelque sorte.
Il y avait un petit peu d'échange.
Il y avait un peu d'échange, mais c'était pas très explicite en quelque sorte. D'accord. C'était vraiment, en fait, je ne saurais jamais si elle a compris mon
Et c'était quoi,
mon manège, en quelque sorte.
T'étais un amoureux copain, t'étais plutôt obsessionnel. Comment tu te comportais? C'était c'était des jeunes femmes qui hantaient, enfin des jeunes filles qui hantaient tes pensées. Tu te rappelles un peu ces amours-là?
Oui, c'était. Je sais pas, c'est le genre d'amour qui t'accroche. Tu dis, tu peux plus arrêter tes pensées par rapport à cette fille-là. Et voilà. Et puis à un moment, ça dure quelques mois. Et puis, tu passes à une autre parce que voilà, c'est un truc que t'as même rien tenté. Et puis tu passes à une autre je sais pas, il y en a une autre qui prend le dessus pour tu ne sais quelle raison.
C'est ces amours adolescentes qui sont fortes et on-off, quoi. Ouais, c'est assez intéressant. donc du coup, tu continues avec tes amours platoniques. Comment ça va se concrétiser? Comment tu vas échanger ton premier baiser, avoir tes premiers flirts avec une jeune femme?
Eh ben alors voilà, il y a un truc. Je disais, je suis un tardif. Mon premier baiser, en fait, je l'ai eu je pense que je vais avoir 18 ans.
Ok.
Donc c'est plutôt tardif.
Écoute,
par rapport à...
Il
n'y
a pas de règles.
Enfin, c'est ça, voilà. On est d'accord, il
n'y
a pas
de règles.
Mon adolescent, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était... c'est pas que j'intéressais pas les filles, parce que bon, finalement, il y avait quand même d'autres filles que celles dont j'étais complètement dingue, qui s'intéressaient à moi, qui étaient probablement dans le même état que j'étais vis-à-vis d'autres filles. Mais moi, alors, ça me disait vraiment rien. Je disais non, celle-là, j'en veux pas, quoi. C'était vraiment complètement focusé. C'est très exclusif, finalement.
Ouais.
Hein, et voilà, donc c'est ça s'est passé comme ça. Et puis un jour, il y a eu ça s'est coordonné. Et je suis tombé sur une fille. C'était en première année de fac, quoi. Donc ça a vraiment démarré.
Ta vie sexuelle.
Ma vie sexuelle, parce que c'était c'est parti de là, grosso modo on s'est embrassé. Alors c'est vrai que j'avais déjà eu des expériences de baisers profonds, soit avec des copains, soit avec des filles, mais j'avais embrassé un bon pote en terminale, je me souviens très bien. C'était un bon pote qui était on rigolait devant des filles, puis David, comment est-ce qu'il embrasse? On va voir ça. Et puis, pof, c'est parti.
Une
et puis, il me brûle une galoche. Et puis, voilà. C'était vraiment comme ça.
Amical, quoi.
Amical, oui, voilà. C'était pas mal. Parce que,
sympa, tes
moi,
copains.
J'avais un peu l'expérience. Voilà. Oui, j'ai pas eu de mauvais copains. Voilà.
Okay.
Ils m'ont bien,
bien
formé, en quelque sorte. Voilà.
Ok, donc tu as cette première fois avec cette jeune femme. Est-ce que tu t'en rappelles? Parce que c'était il y a quelques années, maintenant.
Ah oui, c'était il y a quelques années. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'était dans sa bagnole, elle avait une bagnole et on était à l'arrière Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'était vraiment très, très agréable.
Ah, cool.
Très chaud, tout ça, c'était vraiment bien, quoi. Ça n'a pas duré très longtemps.
Ne t'inquiète, j'adore parce qu'il y a toujours le petit commentaire, genre bon, c'était un peu maladroit, ou c'était un petit peu gauche, ou ça n'a pas duré très longtemps. Mais on se sait les premières fois.
Ouais, voilà.
Donc ça marque le début de ta vie sexuelle. Comment ça va? Parce que moi, j'aimerais qu'on prenne du temps pour parler vraiment du sujet sur lequel tu vois, tu m'as écrit et ce qui t'a motivé vraiment à parler de tout ça. Donc, sans vouloir faire un avance accéléré, mais donc tu as cette jeune femme qui te fait rentrer dans ta vie sexuelle. Tu vas avoir une relation avec elle ou ça va être
Non, ça va durer 15 jours.
Ah quoi. Oui,
donc, c'est-à-dire 15 jours après, elle va me dire ok, c'est bon.
C'est ça.
Je pense que j'étais sans doute trop empressé d'y aller, dans des cours, etc. Elle avait plus d'expérience que moi. Je pense qu'elle était assez amoureuse de moi quand même, mais ça n'a pas duré. Donc voilà, mais c'était au préalable. Tu dis, on s'était un peu chauffé dans les amphithéâtres et tout ça. Ça n'a pas duré. Je sais pas. Je pense qu'elle est restée sur une espèce d'idée qu'elle avait eue avec son précédent copain. Je sais pas trop bien. Bah voilà.
Mais c'est pas très grave. Et donc du coup après, tu rencontres d'autres jeunes femmes.
Oui, alors voilà, c'est un peu à ce moment-là, c'est un peu donc les années de fac, ça a été pour moi les années de consommation, je dirais presque effrénée à certains moments, parce que c'était parti quoi. Donc c'est-à-dire que il y a eu une espèce de déclic avec cette première expérience qui a fait que je les ai multipliés, de temps en temps, peut-être pas de manière la plus
gentleman,
la plus chouette possible, gentleman possible, voilà. Mais c'était, j'ai vraiment passé des années de fac assez intéressantes à ce titre-là parce que je m'en souviens encore et c'était des années, c'est peut-être pas très chouette ce que je vais dire, mais c'était des années faciles quoi. Donc c'était, je pense que les hormones fonctionnent à max à ce moment-là.
La santé, on peut dormir 3 heures.
Exactement, on sort tout le temps, on est en soirée, enfin ça fonctionne très très
donc
bien.
Là, tu multiplies des partenaires, ça reste des relations intimes, on va dire, tu sais qu'on aime bien dans ce podcast dire vanille, ça reste une sexualité plutôt...
Alors, ça reste vanille, donc effectivement... sauf peut-être pour une première expérience homo que j'ai, qui est un peu... alors je suis plutôt hétéroflexible, donc c'est pas...
le fameux hétérocurieux, hétéroflexible.
Hétérocurieux, voilà, c'est ça. Et j'ai une première expérience avec un mec... en fait, à l'issue d'une soirée en fac, je me fais raccompagner par un gars... J'étais mort bourré. Il en profite un peu, donc c'est limite viol, quoi. Donc, mais je reprends mes esprits.
Ce mec-là commence à avoir des gestes sur toi. Oui, voilà. On est sur un rapport non consenti. Toi, t'as pas envie.
Non consenti. Voilà, j'ai pas envie. C'est un mec qui me raccompagne, qui voit que je suis complètement bourré. Il me dit bah attends, je vais te ramener chez toi. Et puis finalement, ouais, je vais te ramener chez toi. Je vais te ramener chez moi. Donc un truc un peu glauque, quoi. Donc vraiment pas trop chouette. Bon. Moi, j'étais bien entamé quand même, donc j'accepte. Il me ramène chez lui, et puis je sens que oulala, le mec entreprend des trucs qui me tentent pas trop. Et en plus, le gars, je le connaissais même pas. Je veux dire, j'ai même pas adressé la parole de la soirée, je pense.
Ah oui, donc il profite vraiment de la situation de
te voir. Il profite vraiment de la situation. Non, c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est tout. Ça s'arrête très très rapidement parce que. Une fois qu'il a sa main dans mon caleçon, je l'arrête, je lui dis, mais attends, ça va pas quoi, donc c'est tout.
T'es pas inconscient, t'es pas dans un état...
Non, je suis pas, mais tu dis, j'étais bien entamé, mais là, je lui dis, le truc m'a réveillé aussi sec en quelque sorte. Et donc j'ai appelé un taxi, je me suis barré, donc ça s'est très vite terminé.
Ça aurait pu vraiment mal se passer.
Il faut faire gaffe. Évidemment, tu vas me dire que c'est peut-être pas le truc qui. Je suis un mec assez sportif, assez baraqué, donc je veux dire, c'est pas. Il s'attaquait pas à un petit freluquet non plus, donc je veux dire. Mais bon, c'est pas. Ça justifie pas son attitude.
C'est toujours très très dangereux. Il faut boire avec modération et surtout toujours avoir des amis avec soi qui peuvent surveiller qu'on parte pas avec quelqu'un qu'on connaît pas, quoi.
Exact. Voilà. Mais c'était pas une expérience traumatisante.
Mais t'avais
pour autant.
Envie d'avoir un rapport avec ce garçon, enfin avec un garçon.
Ah, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est un peu par jeu. C'est un truc, c'est comment dire. Enfin, c'est vraiment un peu par jeu que ça s'est passé. C'est un truc, ça s'est passé tout à fait par hasard. C'est un peu l'occasion qu'a fait le larron. Et je me suis retrouvé avec un gars. J'ai accepté parce que l'ambiance faisait. Le moment faisait que le gars avait des gestes relativement doux, etc.
Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement sans rechercher, c'est voilà. L'occasion. Et
pourtant, j'avais pas du tout de.
Et comme tu dis,
t'es pour ce gars, quoi.
Hétéro-flexible, donc sur un malentendu.
Voilà, c'est un peu ça, c'est le malentendu de Michel Blanc, quoi.
<C'est ça. rire> Ok, donc là, t'as toute ta période fac, tu t'amuses, tu multiplies les partenaires, t'es dans des relations plutôt vanilles, etc.
Donc c'est ça que je disais, donc à part sur cet aspect un peu gay où on était dans un rapport de domination que j'avais accepté ça m'a fait énormément plaisir en fait.
T'as aimé.
Un truc qui j'ai beaucoup aimé et
parce que c'était un homme voilà. Ou parce que c'est un rapport de domination.
Alors par la suite j'ai découvert que c'était plutôt parce que c'était un rapport de domination, c'était pas parce que c'était un homme. J'ai pas beaucoup multiplié les expériences de ce type là avec des hommes. Par contre, je les ai plus multipliés avec les femmes, effectivement.
Et à quel moment ça arrive, ça, dans ta vie ?
Alors, ça arrive assez tard, en fait. C'est, si on reprend un peu l'historique, donc, grosso modo, j'ai une vie... Donc, après la fac, je me mets en couple avec une fille. Je pense que ça dure 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même une longue histoire, une très belle histoire. C'est une histoire qui démarre un peu... sur les chapeaux de roue, on va dire. Donc voilà, c'est un truc d'un coup d'un soir qui finalement s'arrête et puis qui dure 10 ans, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ça reste vanille pendant tout un temps, mais je reste.
Mais ça te plaît, cette sexualité ?
Oui, à ce moment-là, c'est ça fonctionne, c'est bien, c'est. Non, tout à fait. Je ne renie pas les choses, ça c'est vraiment très bien.
Et là, tu cherches pas autre chose avec. D'autres partenaires à ce moment-là, t'es bien dans ta sexualité
non,
avec
parce
ta
que,
compagne
en fait,
de l'époque.
Non, oui, voilà, parce qu'en fait le truc c'est que l'aspect vanille et l'aspect non vanille en quelque sorte, ou kinky si tu préfères, je m'en rends pas compte à ce moment-là. Donc je me rends pas compte, c'est vraiment une réflexion a posteriori. Je me rends pas compte que j'ai passé la frontière du kinky en quelque sorte, comme ça.
Alors kink, ça veut dire, tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire kink?
Bah kink, c'est en fait l'origine, je crois que c'est pas normal, enfin bon, entre guillemets bien entendu, c'est pas une façon conventionnelle, grosso modo, d'entretenir des rapports sexuels.
Ouais, c'est ça, la sexualité kink, c'est qui dévie un peu. Kink, en anglais, ça veut dire entortillé, twist, tu vois. Donc c'est un peu ça.
C'est ça.
Et effectivement, on appelle ça le kinky sex, le fait de sortir d'une sexualité qui sort un peu de l'ordinaire. Donc,
qui sort du conventionnel en quelque sorte. C'est vraiment ça. Oui.
Donc ça tu connais pas encore. Tu connais pas encore cette.
En fait, donc je comme je te disais, donc avec ce gars, ça s'était passé de manière un peu de rapport de domination, mais j'avais pas mis une étiquette dessus. Grosso modo, c'était pour moi, c'était.
Oui,
puis
t'avais pas que ça. T'avais aussi le fait que ce soit pas hyper consenti. Donc c'est vrai qu'au début tu peux tout mélanger parce que tu sais pas trop qu'est-ce qui est de l'excitation de la domination, qu'est-ce qui est de l'excitation du jeu, qu'est-ce qui est du rapport. Plus ou moins validé, enfin, c'est un peu mélangé, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est un peu le flou artistique. Et voilà, grosso modo, ces espèces de distinctions vanille, kinky, etc., c'est quand même, je pense, relativement, enfin, quand je dis récent, c'est récent à mon échelle, donc c'est plutôt les années 90, des choses comme ça. C'est si ça existait, forcément ça existe depuis l'aube des temps, c'était moins communiqué en quelque sorte.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est plus.
Et puis il y avait moins de support, David, il y avait moins de support
voilà.
De communication aussi, tu
exact,
vois.
Exact. Oui.
Beaucoup de choses où il fallait vraiment aller dans des clubs, être très actif et acteur de tout ça. Donc tu passes ces fameux 10 ans avec cette compagne, cette première compagne, avec laquelle tu as une sexualité épanouie, c'est sympa. Et donc qu'est-ce qui se passe ?
Bah, ce qui se passe, c'est que. Il y a un moment, on ne s'aime plus. Voilà, ça arrive, c'est des choses qui existent. C'est qu'on n'est pas fait nécessairement pour vivre toute sa vie ensemble. Et je rencontre quelqu'un d'autre. Je rencontre ma compagne actuelle.
Ta femme.
Ma femme, exactement. Et je me distancie. En fait, grosso modo, non, dans l'historique, c'est plutôt je me distancie d'abord. Enfin, on se distancie. Mon ex-compagne et moi-même, on se distancie de manière un peu triste parce que je sentais qu'elle partait elle-même. Donc, c'est vraiment quelque chose que on commençait à avoir des points d'intérêt différents, ouais, divergents. Ouais. Donc, ce qui peut se passer tant que c'est conçu, etc. Mais il y a un moment, on se dit, ouf, on est en train de s'écarter.
Vous avez réussi à en parler?
On n'en a jamais parlé, en fait. On en a parlé au moment où on s'est séparés.
Ah oui, donc
effectivement.
Oui.
Voilà, donc en fait, c'est vraiment drôle parce qu'avec cette compagne-là, je pense qu'il y a une grosse responsabilité de ma part. Je ne suis pas en train de me flageller, hein, mais ça a commencé sur un coup d'un soir qui a finalement duré 10 ans. Et je me souviens qu'au tout début qu'on était ensemble, je lui disais, on est ensemble, je te donne un bon jusque demain, quoi. Donc, c'est-à-dire, allez, chouette.
Ouais, il y a du rab.
On continue, etc. Donc, en fait, en soi, je pense que c'est quand même si c'était plutôt sur le ton de la plaisanterie, ça a quand même institué chez nous une espèce de relation pas...
Qui avait une date de péremption.
Voilà. Et par exemple, je suis resté 10 ans avec elle, donc je veux dire, il y a un moment, il était question de, je sais pas, de faire un achat d'immobilier d'avoir des enfants, un truc comme ça. Ça ne s'est jamais réalisé.
Eh ouais.
Et je pense qu'à posteriori, c'est sans doute cette espèce de dilettantisme que j'avais vis-à-vis de la relation que j'avais avec elle.
Oui, tu as mis une histoire dans une incertitude quotidienne. Et effectivement, ce n'est pas facile de créer du concret là-dessus. Quoi.
Voilà, sans doute. Et ça, je ne me suis pas rendu compte au moment même, mais je suis... A posteriori, je me dis que c'était pas la bonne manière de gérer ton truc. Et puis voilà quoi. Donc, voilà.
Ouais, comme un très bon ami à moi dit, on peut pas refaire le match.
Voilà, on peut pas. Exact.
Ok, donc tu rencontres ta femme d'aujourd'hui. C'est avec elle que tu auras tes enfants, vous aurez vos enfants.
Ouais.
Comment ça se. Pareil, comment commence votre vie intime, même si effectivement on va respecter votre intimité. Mais moi, ce qui m'intéresse, et tu le sais, c'est. Ce que tu vas raconter sur effectivement cette fameuse sexualité kinky.
Oui. Eh bien, en fait, ça se passe assez facilement. Donc, on a des relations vanille au départ, de manière tout à fait classique, etc. Mais assez rapidement, on s'entend. C'est-à-dire que je suis plus communicant, je lui fais part de mes désirs, elle me fait part de ses désirs, etc. Et on est assez coordonnés sur le truc, c'est-à-dire qu'on a eu assez rapidement une sexualité pas vanille du tout. C'était plutôt des rapports de domination-soumission.
Donc elle qui domine, toi qui domine.
Et alors c'est ça l'astuce, c'est qu'on les switch tous les deux.
Ah, ok.
Donc ça, c'est vraiment le bon plan, forcément.
Ouais.
C'est qu'on les switch tous les deux, donc c'est-à-dire que ça dépend un peu de...
Des envies du moment.
Du moment, voilà. Okay. C'est que je peux être dominé ou que je peux être dominant, donc voilà. Et ça fonctionne très bien là-dessus.
Et concrètement, de poser cette question un peu triviale, mais concrètement, ça s'exprime comment ? C'est-à-dire que celui qui est dominé fait tout ce que lui demande le dominant ? Est-ce qu'il y a des accessoires ? Est-ce que vous vous mettez dans un jeu de rôle dans la chambre ? Enfin, comment ça se met en place, ouais.
Ah ben ça, forcément, ça dépend un peu des moments, mais tout ce que tu viens de dire, donc à propos comment est-ce que ça fonctionne, dans les premiers rapprochements du rapport, c'est un mouche mou, c'est pas très joli, mais au moment où on se rapproche, on se dit, tiens, au fond, qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le truc, et voilà, c'est l'un qui jette une piste et on est parti, quoi.
D'accord.
Ça part là-dessus, donc je veux dire, ça peut être moi qui domine ou moi qui suis dominé, donc c'est des accessoires, oui, je veux dire, on a une panoplie d'accessoires qui sont...
Comment ça s'appelle, là, le truc pour donner les fessées, là, le grand carré de cuir?
Ah, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça, j'ai pas, par contre. Moi, je donne des fessées à la main, carrément, ça, c'est les vrais, quoi, là. C'est...
D'accord.
Mais bon, c'est d'accessoires, on a un peu tout, on a des cordes, on a des... on a des godes, on a des tas de choses qui permettent de vraiment s'amuser. C'est pas,
d'accord, donc vous êtes complètement sur la même longueur d'onde à ce moment-là, donc vous vous éclatez.
Oui, tout à fait.
Trop bien.
Tout à fait, on s'éclate bien. Et voilà, et ça dure. Voilà, donc
il y a
arrive un moment. Oui,
il y a les enfants qui arrivent aussi en parallèle.
les enfants arrivent, ça met un petit peu à un moment l'aspect sexuel un peu sur le côté, on est plus dans des aspects de tendresse, on est plus dans une relation vanille, etc. Parce
oui,
que
oui, bah.
En fait, en soi, on reste aussi, même actuellement, je veux dire, on n'est pas toujours dans une sexualité kinky ou pas vanille du tout. Il y a des moments où on a des retours vanille.
Bien sûr, oui, ça dépend aussi du mood, ça dépend de la
voilà.
De plein de choses comme
voilà.
Tous les couples. Non, mais évidemment. Mais c'est vrai que oui, quand les enfants arrivent, les grossesses, le bébé et tout ça, ça prend quand même beaucoup d'énergie, beaucoup
ça,
de temps. Donc
ça,
j'imagine
ça prend du temps. Heureusement, on a eu trois enfants qui ont été très très faciles en termes de nuit et tout ça.
Ça c'est chouette.
Question de chance. Donc ça fait qu'on n'en a pas souffert et on a assez rapidement, dans les trois cas, repris une
vie
sexuelle assez. Assez rapidement, je dirais, parce que bon, ben voilà, il y a l'épisiotomie, il y a des choses qui, enfin,
oui, bien sûr,
tous des détails qui font que
enfin,
voilà, pendant
c'est un
temps,
détail
ça
quand
se passe
tu n'as pas de vulve, hein, mais ça n'est pas hein, quand on a une vulve,
non, évidemment, enfin, voilà, exactement, on est d'accord, mais en soi, il y a d'autres manières de s'amuser aussi, je veux
oui,
dire,
bien sûr,
pas,
puis en plus, tu sais que c'est aussi bon. Ces moments-là, c'est un passage et que, en théorie, si le couple communique bien et s'aime, et évidemment, la sexualité reprend. Donc ça, voilà, vous arrivez à trouver un bon équilibre entre une sexualité entre guillemets un peu plus traditionnelle, vos envies, vos besoins kinky. Toi, ça t'épanouit parce que tu explores du coup avec avec ta femme. Avec tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, cette sexualité. Et puis il y a un moment, David, où il va y avoir un petit twist.
Ouais, c'est-à-dire que je romps le contrat, quoi. C'est-à-dire que je la trompe, quoi. Donc voilà, c'est.
Comment tu la trompes ?
Alors en fait, c'est venu un peu, je sais pas. Enfin, ça faisait un bout de temps forcément qu'on était ensemble. Je dirais tant que 2003, donc on est vers 2016, quoi. Donc je veux dire, c'est pas tout de suite,
ouais.
Quoi. Donc c'est vraiment.
Ça fait presque 15 ans que vous êtes ensemble.
Alors
à ce
moment-là. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On a fait ce que j'estime être une erreur. Qui arrive, enfin voilà, on a travaillé ensemble, c'est-à-dire professionnellement, on a lancé notre société.
Il y a des groupes pour qui ça fonctionne, hein, mais pas pour tout le monde, quoi.
Voilà, mais nous ça n'a pas fonctionné. Donc c'est-à-dire que ça a jeté du stress terrible dans nos rapports quotidiens.
Ouais, et puis voir toute la journée,
parce que
c'est pas évident. Hein.
Sur des clients, des machins, des trucs, enfin bon, c'est. Et puis bon, il faut reconnaître que c'est. On vous dit, ouais, on vous aide, il y a des comptables, il y a des choses comme ça. En fait, c'est pas la vérité, je veux dire, il y a quand même beaucoup de travail qui vous revient.
Ah bah quand t'es chef d'entreprise, même si tu délègues, tu restes quand même le point de référence et tu dois absolument tout gérer, donc bien sûr.
Voilà, et ça prend du temps, ça bouffe de l'énergie, c'est des trucs qui sont super stressants. Et j'avoue moi-même que sur la gestion du stress, ça n'allait pas, c'était carrément dramatique.
Donc vous y arrivez pas, quoi.
On n'y arrive pas, on continue à voir, à être en couple, etc. Mais je fuis. Je fuis dans un truc, je dis putain, ça c'est plus possible, je dois. Je sais pas trop ce qui s'est passé, à vrai dire, c'est parce que c'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Comme je le disais, je suis
suivi
par une psychothérapeute et on essaie de dépatouiller ce qui s'est passé pour.
Mais t'as envie d'autre chose à ce moment-là, en tout cas, t'as besoin d'une respiration extérieure, quoi.
Exact, voilà. Et voilà, et je vais voir une domina.
Pourquoi tu choisis de voir une domina ? Pourquoi t'as pas pris, pardon, de faire un raccourci, mais pourquoi t'es pas allé voir dragouiller sur une appli pourquoi pas une prostituée ou que sais-je ? Pourquoi t'as choisi une domina ? Y avait un fantasme derrière ?
Oui, je crois que c'est ça.
Ouais.
C'était un truc, je me dis. C'est pas tout à fait clair a posteriori, et pourtant c'est pas très très vieux, c'est 2016, 2017, quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est je pense que c'est un peu à nouveau l'occasion. Je dis voilà, tiens, je vois un site internet avec une domina qui explique les contrats, qui explique l'humiliation, ce qui explique toutes ces pratiques.
Ça a été compulsif, c'est-à-dire tu as ouvert ton ordi, tu as tapé domina et machin.
Non,
ça a
non,
été
non.
Une recherche pendant longtemps.
Bon, en fait, Comment je sais plus très bien comment c'est parti, mais non, forcément, j'ai réfléchi avant de faire le truc. C'est pas un truc, je dis merde, ok, j'y vais, c'est parti. Il y a eu un raisonnement. Il y a eu un raisonnement par rapport à ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, etc. J'ai hésité.
Oui, donc tu as quand même projeté, tu as quand même intellectualisé le fait d'y aller, de chercher. Tu me disais que c'était le chapitre de Yann que j'ai écrit dans le livre là, de On the Verge, qui est un homme qui n'a pas souhaité s'exprimer au micro pour des raisons de confidentialité. Plus, et du coup, il a bien voulu que j'écrive son témoignage sur papier. Et tu m'as dit que j'ai fait une lecture dans le podcast hein, de ce chapitre, et tu m'avais dit que ce chapitre avait énormément résonné en toi, parce que justement, Yann explique sa double vie entre sa famille bourgeoise, parce que lui, il bosse dans les médias, etc., et en parallèle, sa vie avec sa domina.
Exact, oui, c'est ça. Oui, effectivement, ça a beaucoup résonné en moi parce que dans ce que tu relatais de ces impressions, je me suis vraiment retrouvé dedans. Donc, c'est-à-dire que il y a un aspect extrêmement compartimenté dans c'est une double vie, en fait, il n'y a pas d'autres mots. Tout est compartimenté, tu prends un autre nom, tu changes tes modes de communication, tu fais tout pour pas te faire serrer, et ce qui est logique, évidemment. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait un peu le même, je sais pas si c'est en même temps, mais enfin, en tout cas, la même démarche, tu commences à te dire, est-ce que je le fais, je le fais pas, moi, il fait que je l'ai fait, voilà, il y a un moment où la décision s'est prise.
De rechercher, de lire le site internet, de peut-être pouvoir avoir une ou deux photos. Même maintenant, aujourd'hui, avec les comptes en ligne, tu peux payer pour avoir un peu virtuel. Tu ne pensais pas pouvoir t'arrêter là ? Il fallait que tu le vives.
Alors, si c'est pas mal que tu parles de lire ou en tout cas de découvrir des expériences, parce que j'ai un passé énorme là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal lu de littérature érotique, Florence Dugas, différents auteurs qui sont des auteurs qui clairement parlent de BDSM, d'auteurs, c'est très chouette à lire indépendamment des expériences, c'est aussi bien écrit, donc je veux dire c'est parfait. Et donc cet aspect fantasmagorique, je l'avais déjà eu, j'avais un univers graphique, je m'intéressais à des images porno et des choses comme ça, indépendamment des je parle pas
tu avais déjà nourri ton intellect, ça c'était déjà bien nourri, et donc là t'étais arrivé à un moment où effectivement il fallait que ça se fasse dans la physicalité.
Je pense, enfin je sais pas trop, tu sais, c'est pas très clair dans mon esprit. Alors, il y a un moment, je me suis dit, il faut vraiment penser à cette fuite. Je pense que c'est vraiment de là que ça part. C'est dire, j'ai un stress, mais monstrueux ici, j'en plus, c'est un truc, il faut que je fuis. De manière, en fait, c'est pas conscient, c'est maintenant que je le dis à posteriori que j'ai fui, mais c'est comme ça que ça s'est passé.
Yann le dit aussi, hein, sa domina lui permet de, comme lui, il a un gros poste à responsabilité, il gagne beaucoup de fric. Il explique ça, il explique que c'est aussi sa façon à lui qu'il a trouvé de faire retomber la pression. C'est le seul moyen pour lui d'arriver à pas vriller, quoi.
Ben, je suis d'accord, et c'est en ça que son expérience me parle énormément, parce que c'est ça.
Il a vraiment une décompensation de son quotidien. Il parle vachement de parenthèses. Je sentais qu'effectivement, au-delà du plaisir et de la jouissance, il allait chercher aussi autre chose psychologiquement. Et il en parle. Il me l'a raconté. J'espère que je l'ai bien raconté par écrit. Apparemment, ça t'a touché, donc je suis contente finalement un peu. Mais c'est vrai que c'est tout l'aspect psychologique qui a dans ce rapport avec sa domina et au-delà de la jouissance physique.
Oui, c'est ça. C'est vraiment au-delà. En fait, c'est un abandon total. C'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, c'est-à-dire que tu te trouves petit devant quelqu'un, devant une femme qui va tout décider pour toi. Donc, C'est ça, quoi. C'est un truc qui est... mais c'est total, je veux dire. C'est, tu lui remets ton... ta jouissance, tu lui donnes tout. Et c'est elle qui décide. Elle décide de tout. Tu, il y a des limites, évidemment, parce qu'il y a un scénario qui est établi. Et puis, il y a des choses que moi, j'ai pas envie de faire. Donc, elle
ne fait pas. Mais ça, c'est vu avant.
Il faut savoir que les rapports de Domina, en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si c'était dans le cas de Yann, mais... sont des rapports tarifés.
Oui, c'est tarifé, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est tu viens, tu payes, tu demandes quelque chose. Je suppose que certaines personnes ne sont pas du tout précises. Moi, je l'étais relativement. Et je voulais ça et pas autre chose. Et c'est tout. Et c'est ce qu'elle te donne. Mais en entrant chez elle, chez cette domina, c'est, tu lui remets. C'est elle qui décide. De
tu raccroches carrément tout ce que tu es.
Voilà.
Et donc du coup,
exactement.
Tu
et c'est ça qui est jouissif.
Donc tu prends rendez-vous avec cette domina à ce moment-là dans ta vie parce que tu as besoin de fuite, parce que tu as besoin d'une ouverture, de respirer, de faire autre chose, d'aérer. Est-ce que tu te rappelles comment ça se passe cette première séance qui n'est plus dans ton fantasme, dans tes écrits, dans ta littérature érotique, dans ta chambre à coucher avec ton épouse, même si c'était un peu différent. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu t'en rappelles?
Oui, je m'en rappelle très bien. C'est voilà, elle a très bien compris, parce que c'est une professionnelle, elle a très bien compris son rôle, elle a rempli son rôle comme il le fallait. Et c'est en ça que c'est en ça que c'est quelque chose qui est formidable. Donc c'est on sonne la porte, tout est prévu, je dirais. Elle est là, elle est dans la tenue que tu lui as demandé.
Donc c'était quoi cette tenue?
Alors la tenue que je t'avais demandé de porter, c'était quelque chose de très strict. C'était c'était un tailleur, un chemisier, de la lingerie blanche et voilà, elle est comme ça, elle était très stricte, elle était très sèche.
Donc figure aussi. Autoritaire, quoi.
Une figure autoritaire, effectivement. Okay. C'était ça que j'étais venu rechercher. Et puis, je lui avais demandé de me mettre à l'épreuve, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'était des épreuves. Je lui ai demandé de me retrouver nu ou en slip devant elle. C'était prévu, tout était prévu, le scénario était tout à fait clair et demandé. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc
ça, tout ça, tu l'écris avant, tu lui fais comme une commande, quoi.
Il y a des
lui...
échanges, effectivement,
échanges,
c'est une commande.
Okay.
Il y a des échanges qui sont faits sur ce qui est voulu, ce qui est désiré, ce qui n'est pas envisageable, okay. Ce qui est peut-être envisageable au cas où, etc. Et donc tout ça est très codifié.
Une séance dure combien de temps?
Les séances que je pense que c'est assez variable. Moi, j'étais parti pour une heure, donc c'est-à-dire
une
que ça ne durait qu'une heure. Donc c'était.
Et combien ça coûte?
Ça coûte 250 euros. Enfin, ça coûtait 250 euros à l'époque.
Ok. Et ça se fait dans son lieu à elle.
Dans son donjon. Dans son lieu à elle, qui est équipé d'accessoires,
de toutes choses pour tous les goûts et tout ça. Ok. Et tu l'avais sélectionné parce que son physique te plaisait ou parce que ses pratiques te plaisaient? Comment tu choisis ta domina?
Je ne me souviens plus très bien comment j'ai... Je pense qu'au départ, il y a sans doute un certain nombre de pratiques qui sont je ne vais pas dire promues, mais enfin, en tout cas qui sont expliquées sur les sites internet. Je n'ai pas vu qu'une domina, j'en ai vu plusieurs.
Oui, elles ont des spécificités en
donc,
fonction.
Donc elles ont chacune des spécificités, mais... Et forcément, c'est ce que tu recherches à vivre qui va t'orienter vers telle ou telle domina. Alors maintenant, il peut y avoir une accroche physique ou pas. Dans mon sens, c'était pas d'une importance primordiale. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Je n'étais pas en train de chercher quelqu'un qui soit...
Oui.
Absolument physiquement magnifique ou quoi que ce soit, ça avait relativement peu d'importance à mes yeux. C'était plus la question de la pratique, quoi.
Est-ce que tu désires la domina d'un point de vue sexuel? Est-ce que ça joue dans le rapport? Est-ce qu'il y a une notion de désir?
Je ne sais pas répondre à ta question. Ça, je dirais plutôt, je vais te répondre un peu à la normande. C'est, il y a en tout cas pas une, il faut pas qu'elle soit repoussante, ça c'est clair. Donc Mais est-ce qu'il y a un désir? Moi, je dirais pas. Enfin, moi, j'ai pas ressenti un désir physique ou.
T'as pas envie de faire l'amour à ta domina?
Et tu ne fais jamais l'amour.
Waouh, pardon.
C'est un truc, c'est impossible.
Tu m'as fait des gros yeux, genre non. Alors, sorry.
Non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as aucun rapport sexuel avec une domina.
Oui,
jamais.
Tu ne la touches
jamais.
Pas, quoi.
Si tu peux.
Enfin,
si,
je veux dire,
si elle accepte que tu la touches, tu la touches, mais elle qui décide de tout.
D'accord.
Donc c'est mais il y a pas donc je pour reprendre ta question, donc il y a pas de, il faut pas qu'elle soit repoussante en quelque sorte si tu veux, donc ça forcément, mais il y a pas de.
Ça dépend, il y a peut-être que y a d'attirance, des hommes qui cherchent
peut-être voilà.
Qui crée quelque chose dans l'ordre du tu vois, on sait pas.
Mais bon, je quand je parlais d'accueil, etc., de tenue street, etc., c'est clair que il faut que ce soit crédible et généralement elles le sont. Donc quelqu'un qui est strict, qui est sec, forcément ça correspond sans doute peut-être à certains critères physiques. Et encore, je crois que tout le monde peut être strict, il n'y a pas de problème, parce que c'est des gens finalement, dès que la séance est terminée, il y a ce qu'on appelle un social time avec ces personnes. Des personnes comme toi et moi, je veux dire, c'est pas ils sont pas des extraterrestres,
des
voilà, ça revient,
dans
voilà,
oui,
voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Ça reste donc extrêmement codifié. C'est un moment.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de rôle?
C'est un jeu de rôle. C'est exactement okay. Ça. C'est pas autre chose que ça. C'est un jeu de rôle.
D'accord, d'accord.
Dans lequel on a fixé
un jeu de rôle. Hein, c'est pas drôle. C'est jeu de rôle.
Exactement.
Que, tu vois. Donc tu vois cette domina. Tu fais cette séance. Donc il y a quelques années maintenant. Comment tu te sens? J'ai eu des hommes hein, à ce micro infidèles qui ont eu des doubles vies. Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que tu alignes quelque chose dont tu avais vraiment très envie? Comment ça se passe après cette première séance et puis d'autres, puisqu'on a compris qu'il y en aura d'autres?
Alors c'est bien que tu poses cette question, parce que après la première séance que j'ai eue, j'ai vraiment culpabilisé. Je me suis dit, merde, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que t'as foutu? Ça va pas. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, voilà, c'est bien, on a passé ça, donc on la vous voit, etc. Tous les rapports sont très hiérarchisés ici. Et je lui ai dit, voilà, ben merci. J'ai compris que c'était pas mon truc.
Faux.
Donc voilà, ce qui était faux, en fait, à vrai dire, c'était faux. Voilà, mais il sait que la première que j'ai rencontrée n'était pas la seule. Il y a eu plusieurs dominants en quelque sorte.
D'accord.
La première que j'ai rencontrée, je ne l'ai jamais revue en quelque sorte.
Okay.
C'est pas que ça se soit mal passé. Je crois que c'est.
T'as eu envie d'explorer
voilà.
D'autres dominants, quoi.
Voilà, ça s'est passé
donc
un peu comme
tu
ça.
Donc tu culpabilises, mais tu.
Je culpabilise et j'en parle plus. Ça passe. J'arrête le truc et. Plusieurs mois plus tard, je replonge. En fait, c'est un peu, enfin, je replonge si on veut. C'est pas une bonne image, mais
c'est plus fort que toi, quoi.
C'est. Alors, je sais pas très bien. Ça fait partie un peu de la thérapie que je suis en train de faire maintenant. Si c'est plus fort que moi ou pas. Bon, je veux dire, on est quand même responsable de ses actes aussi. Donc c'est un truc qu'on se dit. T'as quand même choisi ton bazar là.
Oui,
je veux dire, c'est pas. Et je l'assume. J'ai choisi la première, j'ai choisi la deuxième, j'ai choisi la troisième, etc. Donc je veux dire, il n'y a pas de.
Oui.
J'assume ce geste-là. Donc c'est pas plus fort que moi. Oui, si tu veux, j'étais toujours dans cette dynamique d'ultra stress, etc. Donc il y a nouveau un besoin de fuite qui est arrivé.
Est-ce que la première
séance,
elle a eu un effet sur ton stress et tout ça?
Oui,
est-ce que c'était juste un calmant?
C'était un calmant.
Un effet placebo? Non, ça a vraiment fonctionné quand même.
Oui, tout à fait. Oui.
Ouais,
okay. Ça a été un calmant, ça a fonctionné.
Okay. Donc du coup, tu retrouves, tu vois une deuxième domina et quelques mois après, tu y retournes. Et là, grosso modo, ça y est, t'es rentré dans l'engrenage, quoi.
Oui, voilà. Donc oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est donc sont des rendez-vous plus réguliers en quelque sorte, quoi. Donc
Tu la vois à hauteur de combien cette domina et les autres après.
Je fais une séance. Alors si on reprend un peu l'historique, parce que effectivement, je vais voir une domina, mais je ne vais pas voir que des dominas aussi.
Ah.
C'est dans cet aspect-là, il y a deux volets. C'est les dominas et les masseuses tantriques. C'est le deuxième volet. Bah, ce tantrique, c'est tout à fait différent. On n'est pas du tout dans un contexte de domination ni quoi que ce soit. C'est plus un
massage sensuel.
Un massage sensuel, érotique.
Ok.
Et ça, je veux dire, ça se passe. Dans l'historique, je ne sais plus quand ça intervient. Je crois que le départ, c'est les dominants, et puis ça divise. Ouais. Ça se dirige vers les masseuses tantriques à un moment, et puis des dominants. Alors des dominants, je réponds à ta question de départ, quand est-ce que je les vois? Je dirais que c'était une fois tous les 3 ou 4 mois, peut-être. D'accord. Quelque chose comme ça. Donc c'était pas de manière extrêmement régulière, mais c'était suivi en quelque sorte. Donc,
question pratico-pratique sur les dominants, si par exemple il y a elle te frappe ou elle te blesse, etc. Si ça arrive, est-ce que ta femme voit quelque chose? Est-ce qu'elle se doute de quelque chose à ce moment-là? Parce que...
Alors, elle pourrait, à part que c'est prévu dans le briefing, en quelque sorte, qu'il n'y ait pas de marque, qu'il n'y ait pas de choses. Et effectivement, dans mon cas, c'est absolument hors de question qu'il y ait quoi que ce soit comme D'accord. marque qui reste ou quoi que ce soit. Quoi.
Ouais, je comprends. Donc, donc, les masseuses tantriques, pour qu'on comprenne bien, donc c'est des massages érotiques. Donc, tu es nue. J'imagine que la masseuse elle-même n'est pas très habillée.
Elle est nue.
Comment ça se passe? C'est elle qui te masse et qui... j'arrive pas trop à savoir, parce que pour moi, le tantrisme, c'est une pratique d'une sexualité un peu plus spirituelle. Donc peut-être que, du coup, c'est un mélange des deux. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le massage tantrique?
Alors, le massage tantrique, c'est ce que tu expliques. Donc ça reste... Il y a une dimension spirituelle qui est okay. dessus, en tout cas, qui est, on va dire, en filigrane.
Ouais.
En fonction des masseuses que tu rencontres, ben, c'est plus ou moins filigrane ou pas du tout. Donc, je veux dire, il y a un espèce de commerce du massage tantrique qui est fait sur toutes les places et sur tous les réseaux en te vendant du massage tantrique qui n'en est pas vraiment.
Mais parce que à la base, c'est vraiment c'est un douist et ça,
oui, c'est ça.
Une doctrine très particulière sur connexion spirituelle des âmes, etc. Donc, du coup, là, c'est un peu, on va dire, un mot un peu marketing pour dire que. C'est des massages sexy, quoi, non?
Alors, c'est le cas.
Je mets les pieds dans le plat, David. Hein.
Non, mais tu
balance,
fais bien,
hein.
Parce que c'est le cas dans le... Je pense que c'est le cas, c'est effectivement une espèce d'enseigne marketing. Mm-hmm. Ceci dit, il y a quand même des grosses différences entre certaines praticiennes, en quelque
bien
sorte.
Sûr,
c'est
bien
que
sûr.
Tu as... de bons massages tantriques comme tu en as de moins bons. Oui.
J'imagine, mais
forcément,
comme globalement un massage tout court, hein, t'as des bons et des mauvais
voilà.
masseurs.
Exactement.
Est-ce que c'est une bonne situation d'être masseur? Bon, ouais. Bref. Est-ce que c'est pénétratif, pardon?
Alors pas du tout, il n'y a pas okay. de... Donc à nouveau, il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de coït.
Mais toi, tu vas jusqu'à la jouissance?
Alors, mais moi, je vais jusqu'à la jouissance okay. parce que dans le déroulé du massage tantrique, il y a ce qu'on appelle le massage du lingam, mm-hmm. qui est le massage du sexe.
Ah oui, bah forcément.
Qui s'appelle le massage de la yoni chez la femme. Donc, c'est-à-dire mm-hmm. que le massage tantrique existe également pour les femmes. Et il l'amène souvent à la jouissance. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique, mais dans la plupart des cas, c'est
efficace, c'est quoi. Ça.
Voilà, exactement. Toi, un moment d'échange surtout. Enfin, quand je dis d'échange, c'est pas tout à fait clair parce qu'on ne masse pas la tantrika, donc évidemment.
Oui, mais c'est elle qui te procure quelque chose. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même, pour le coup, avec la domina, il y a quelque chose, pardon, hein, je projette, mais assez froid, assez dur. Il y a une forme, comme tu dis, d'humiliation, de domination. À l'inverse, c'est complètement... Enfin, il y a une polarité, quoi. L'autre, c'est une chaleur, c'est sensuel, c'est charnel, c'est joie de l'huile. Enfin, tu vois, il y a un truc beaucoup plus érotique. Et donc, c'est marrant d'avoir, tu vois, ces deux pratiques parallèles.
Exact. Parce que c'est pas du tout la même chose qui est recherchée. Ça n'a rien à voir, effectivement.
Donc ça, tu es aussi un peu entre ces...
pratique en quelque sorte, si tu veux. Voilà.
Et donc, tu vas, c'est ce que tu disais, tu vas te faire griller. Hein.
Et voilà, exactement.
Comment?
Ah ben un peu comme, je suppose, on se fait griller habituellement, c'est-à-dire qu'on va fouiller sur les téléphones, c'est ne jamais, jamais fouiller les téléphones, c'est une mauvaise idée, ça.
Non, ne faites pas ça, quand on cherche, on trouve, hein. Donc,
ouais, exactement. Exactement, donc c'est ce qui s'est passé, donc voilà, un jour...
Donc, parce que ton épouse avait des doutes.
Alors, elle avait des doutes, effectivement. Donc, c'est ce qui l'a amené à pousser un peu pour voir si ça se confirmait. Ouais. Et bon, elle a retrouvé effectivement des connexions qui en disaient long. Donc, voilà.
Je ne vais pas te demander ce moment-là parce qu'il vous appartient et que je trouve que ce n'est pas cool pour elle de rentrer dans le moment où elle te met face à ça. Mais vous êtes encore aujourd'hui ensemble, donc comment ça se passe? C'est-à-dire que j'imagine que tu avoues, enfin en tout cas tu confesses, et comment vous arrivez à passer au-dessus?
Alors c'est très dur.
Ouais.
C'est effectivement très dur. Le couple a failli y passer, hein, en fait. Hein, c'est pas quelque chose qui a été facile à gérer.
Elle a été évidemment blessée, j'imagine.
C'est ultra blessée, elle a été choquée, elle surtout, et en fait, c'est ça qui a été, je pense, le plus difficile à accepter de sa part, c'était les mensonges.
Ouais.
Et les mensonges à répétition. Donc, c'est-à-dire que. Elle m'avait déjà posé la question, elle me l'a posée plusieurs fois, en me demandant si tout allait bien, si il n'y avait pas quelqu'un, etc. Donc, et chaque fois, je lui ai dit que non, il n'y avait absolument personne, etc. De manière répétée. Et ça, c'est
mentir les yeux dans les yeux, quoi.
C'est le mensonge, les yeux dans les yeux, de manière répétée et confirmée. Donc, et ça, c'est vraiment le plus dur. De toute notre histoire, ça a été vraiment ça, et ça l'est toujours maintenant, je veux dire, parce que il n'y a plus de crédit par rapport à ce que je raconte, même maintenant, je veux dire, il y a vraiment une remise en question de ce que je dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que j'invente pas n'importe quoi, est-ce que je ne suis pas encore en train de voir des dominas, est-ce que je ne suis pas en train de...
Est-ce que, je sais, comme tu me disais que tu bossais dessus et tout, est-ce que lui mentir faisait partie aussi de l'excitation et du...
Jamais, du décorum? Pas du tout. Non. Alors en fait, le mensonge, je lui ai jamais, exprimé pourquoi j'avais menti, mais c'est un truc idiot. C'est que j'ai été confronté à un copain qui avait trompé sa femme il y a longtemps. C'est un truc il y a 15-20 ans. Et il avait dit, mais jamais, si c'est un truc qui t'arrive à l'époque, j'étais pas du tout dans ce mood-là, donc je veux dire, c'était pas du tout. Mais il m'avait dit un truc, il m'avait dit, mais jamais, mais ne jamais, jamais, jamais avouer, jamais.
Ah ouais,
jamais,
jamais. Nier le truc au max, quoi.
Voilà, nier le truc au max. Et en fait, j'ai suivi sa recommandation, si tu veux, à 20 ans de distance, ce qui était une idiotie sans nom, parce que, en fait, il n'y a rien à faire. Il y a un sixième sens, même un septième et un huitième. Et il y a des choses qu'on sent, voilà, c'est comme ça. Et donc, au lieu d'avouer à un moment, non, j'ai persisté dans ce mensonge, et ce qui fait que ça a vraiment complètement détruit la confiance qu'elle avait en moi.
Tu penses, alors on va pas refaire le match, mais tu penses que si tu lui avais dit que tu avais ses besoins, que tu avais ses envies, que tu voulais tenter ça, ça aurait été différent?
Bah, je ne sais pas répondre à ta question là. Comme tu dis, on refait pas le match, mais je n'en sais rien ça par rapport à ça, parce que.
Et elle te l'a pas dit. Elle t'a pas dit dans les échanges un peu plus apaisés, évidemment, parce que j'imagine qu'au début ça devait être très compliqué, mais on aurait pu en discuter.
Tu vois. Oui, ça effectivement. Oui. Donc c'est à dire que en fait on. Il n'y a rien à faire, je veux dire, quand vous avez 10, 15 ans, 20 ans de couple, et encore, je veux dire, ça se passe peut-être même après un an, c'est pas une question de durée, mais il n'y a rien à faire, vous avez des crushs, vous avez des attirances, vous avez des trucs qui se passent, c'est humain, c'est
bien
humain.
Bien sûr.
Alors, je reprends la petite intervention de Vincent Lindon qui parlait de ça, je sais pas si tu vois de quoi je parle,
il
disait, voilà.
Télé, quand il en parle.
Parle de ça, il dit voilà, c'est pas dans le code pénal d'être attiré par quelqu'un d'autre, ça arrive, c'est des choses, mais il faut le dire, et c'est ça la différence. Et c'est effectivement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? C'est tout, j'aurais accepté. Enfin, on en aurait discuté à ce moment-là, et éventuellement on aurait refait nos vies, ou on aurait fait autre chose, enfin, on aurait trouvé une solution.
Oui, Après, c'est, surtout que là, c'était pas un crush extérieur, c'est que tu avais une envie de...
Voilà. Tu vois. C'est ça un peu la différence, c'est que c'est important parce que ça c'est pas un crush, c'est
une femme, quoi.
C'est quelqu'un, et c'est en ça, et je travaille beaucoup là-dessus parce que c'est, ça fait partie des grosses différences dans mon esprit à moi. En fait, oui, effectivement, je lui fais un sale coup, je la trompe en quelque sorte, mais elle reste mon amoureuse et elle reste ma femme, et je continue à l'aimer. Et je peux, au fer rouge, le jurer que j'ai continué à l'aimer. Parce que ce que j'ai fait sur le côté des espèces d'aventures tarifées, des choses comme ça que je ne remets pas en question, qui sont...
Bien sûr, que tu assumes et tout ça.
Que j'assume, etc. Je ne suis jamais tombé amoureuse. Il n'y avait pas d'aspect charnel ni d'aspect amoureux par rapport à ça. Il n'y avait pas d'amour. C'est uniquement sexuel.
Ce n'était pas un crush pour une femme, mais c'était une envie de réaliser un fantasme. Donc effectivement... Voilà. C'est vrai que c'est... Après, c'est intéressant. J'espère que les auditeurs, auditrices vont se poser la question, eux, de leur côté, comment tu réagis si tu, effectivement, on se met à la place de ton épouse. Qu'est-ce qui est le plus difficile, enfin, c'est intéressant parce que, effectivement, par exemple, bah, tu le sais, je pense, tu t'intéresses à tous ces sujets-là. Les gens, enfin, en tout cas, beaucoup de gens qui se mettent aujourd'hui en un contrat moral entre eux en parlant de couple libre. Donc, typiquement, tu vois... dans le couple libre, est-ce qu'un rapport tarifé c'est ok, est-ce qu'un rapport avec un crush une fois c'est ok, est-ce qu'un rapport avec un crush qu'on voit plusieurs fois et qui devient un peu du coup une espèce d'amitié amoureuse c'est ok, enfin tu vois chacun après met son curseur quoi. Donc c'est vrai, est-ce que je n'ai pas la réponse et vraiment j'ouvre la question, mais est-ce que avoir des rapports sexuels tarifés avec des professionnels du sexe, des TDS et pour lequel on n'a voilà, on a pas de tirance particulière, est-ce que c'est trompé ?
C'est la grosse question, hein, oui, évidemment, c'est la grosse question.
Donc aujourd'hui, vous en êtes où avec ton épouse ? Donc du coup, effectivement, il y a eu cette crise qui a été compliquée, mais vous êtes encore aujourd'hui, 7 ans après.
Mais c'est-à-dire que on est, c'est fragile, hein, donc c'est-à-dire que moi, je continue à être suivi par ma thérapeute, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas entamé une thérapie de couple, on verra, peut-être qu'on en fera un jour, on verra bien. Mais ça reste, en fait, ce qui se passe, c'est autant moi j'ai envie de foutre ça sur le tapis et puis c'est terminé parce que c'est plutôt récent, etc. Mais il n'y a pas la même maturité par rapport à cette histoire. Donc c'est-à-dire que ma compagne, elle a pris ça dans la tronche, elle sait pas trop bien ce qui s'est passé, elle a une vague idée, etc. Mais c'est pas tout à fait clair. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails tout simplement parce que, ben voilà, c'est
puis ça t'appartient. C'est
vraiment. Oui, mais finalement, est-ce que ça lui appartient pas un peu aussi ?
Ça, c'est toi qui sais. Enfin, je sais pas, après, est-ce que le fantasme, il faut le débunker, lui dire les choses pour qu'elle arrête de. Enfin, si son esprit part, tu vois, trop loin, à se poser plein de questions et du coup, elle imagine des trucs un peu dingues et tout. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir les détails ? Après, est-ce que c'est pas mieux de garder chacun un jardin secret et de... Enfin, je sais pas. En fait,
c'est là. C'est. Mais t'as raison, je sais pas non plus. Donc, en fait, c'est pas clair.
On est bien
non,
avancé, David. Voilà. écoute. non, mais c'est vrai. C'est une situation qui est. Et c'est. Et je trouve ça formidable que tu te fasses accompagner sur ce sujet parce que c'est vrai que il y a que vous qui allez retrouver l'équilibre, votre équilibre, quoi.
Oui, oui. Et alors, on le retrouve. En soi, on le retrouve parce que, enfin, je pense que je suis assez, enfin, j'avoue que je suis assez optimiste là-dessus parce que je trouve qu'on passe d'excellents moments. C'est reparti sur des bonnes bases. J'ai laissé tomber toutes ces conneries parce que finalement, ce ne sont que des conneries. Hein. Soit c'est pas vraiment très, très, c'est comme ça parce que, ben, voilà, ça fait souffrir l'autre. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est comme ça. C'est la femme de ma vie. Et bon, c'est comme ça. C'était la femme de ma vie. Ça le reste. Ouais. Et c'est comme ça que ça doit aller. Et alors, si le contrat s'est dit.
De ne plus voir
oui,
le dominant.
Oui, voilà, c'est ça. C'est si le contrat s'est dit, mais merde, tu arrêtes tes conneries et c'est comme ça. Et c'est pas à prendre ou à laisser. C'est comme ça. C'est tu arrêtes tes conneries, sinon c'est tu t'en vas. Voilà, c'est moi je dis mais non, je reste quoi, parce que enfin je reste, c'est pas pour rester, c'est pas tellement ça, mais
bien
c'est
sûr,
parce que
non,
c'est la femme de ma vie, je veux dire, c'est
balance,
le choix,
c'est
voilà.
Elle, quoi.
Voilà, donc c'est avec ma thérapeute, on a évoqué la chose, c'est que j'ai une vision un peu plus libertine en quelque sorte de la relation, ce qu'elle n'a pas à elle, mais en soi, c'est sur qui est-ce qu'on se. On se fixe quoi, qui détermine.
Bien sûr.
Quel est le. Voilà, c'est tout. Et ben, moi, j'ai décidé, voilà.
Et ça, c'est quelque chose que ta femme veut pas explorer.
Pense pas que ce soit le cas, mais je l'accepterai en soi, parce que ben voilà, en tant que si on veut, si moi je suis libertin, je l'accepte de l'autre côté aussi. Ceci dit, c'est vrai que l'intense, c'est la communication et de savoir ce qui se passe, quoi, en gros. Donc c'est pas les mensonges comme je les ai fait pendant plusieurs années. Quoi.
Mais c'est intéressant de voir à quel point ton couple a évolué et surtout comment toi tu as évolué. Aujourd'hui, effectivement, tu es prêt par amour et par voilà, parce que ta femme est l'amour de ta vie et que tu veux son bonheur et de mettre justement ses fantasmes et ses envies, on va dire, dans une petite boîte précieuse et fermée à clé. C'est une très belle, finalement, déclaration d'amour et un très beau geste d'amour.
En tout cas, oui, je l'espère et que c'est perçu de cette manière-là. Mm-hmm. Alors attention, je vis pas dans la frustration non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai...
C'est ce que j'allais te poser comme question.
C'est un truc que j'ai foutu... que j'ai foutu ça sur le côté. En fait, j'en ai beaucoup discuté avec elle et avec ma thérapeute. C'est-à-dire, en fait, je suis pas dans un système d'addiction, en gros. C'est-à-dire, c'était pas devenu un truc où je peux plus m'en passer. C'est un truc... Il faut dire que... Donc, je parlais des prémices de cette situation où j'ai dû fuir avec un stress énorme, ça a changé nos situations professionnelles. C'est-à-dire que maintenant, c'est terminé, on ne travaille plus ensemble, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on a laissé tomber notre société ensemble. Elle travaille de son côté chez un employeur et je travaille chez un autre. Donc, c'est-à-dire qu'on a repris en quelque sorte une vie plus classique ce point-là. Donc, c'est-à-dire que ça, on a du stress professionnel comme tout le monde, mais je veux dire, on a plus ce stress de travailler ensemble et que finalement, le travail est pile dessus sur tout. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a des moments de couple et on a des moments de famille et des moments qui sont totalement dégagés du travail. Donc du coup, le stress est beaucoup plus gérable et beaucoup plus facile et je n'ai plus cette envie de fuite.
Bien sûr, je comprends.
Et ça change tout, évidemment. Donc il y a quand même un changement de vie qui a permis aussi ce changement d'approche
d'approche et puis d'équilibre entre vous.
Entre nous, voilà, c'est ça.
Et dans votre sexualité à vous deux, est-ce que du coup vous avez retrouvé aussi... un rythme, vous avez repris aussi...
Alors, de manière, je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, mais on n'a jamais arrêté de faire l'amour. Donc c'est un truc, même pendant nos crises, toujours continué. Donc c'est quelque chose où on est fusionnel et ça fonctionne et on n'a pas arrêté. Donc il y a des moments où il y a peut-être un peu moins de relations entre nous, mais enfin, je veux dire, maintenant c'est passé et ça reste... ce mix très très intéressant entre du kinky et du vanille, et puis voilà, tout va bien.
Est-ce que tu as abordé tous les sujets que tu voulais aborder, parce qu'on va arriver à la fin de notre entretien?
Oui, je crois que...
T'as tout dit.
Je pense avoir tout dit, oui, effectivement, c'était une conversation intéressante.
Qu'est-ce que tu pourrais dire pour le mot de la fin, enfin, un petit mot que les invités veulent faire passer aux auditeurs, auditrices, ou à soi-même, enfin, comment tu conclurais cet entretien fort intéressant?
Mais moi, je dirais qu'il y a vraiment un aspect qui est... à la fois important dans une relation de couple ou dans une relation, enfin, je veux dire une relation individuelle, c'est un peu un paradoxe, mais enfin, je veux dire dans une vie personnelle et dans une relation de couple, c'est forcément la communication, donc ça c'est très important. Mais je crois qu'il faut aussi découvrir, il faut vraiment oser découvrir des choses, faut en parler, faut oser, parce que finalement, si on se met sur le... Rien que du point de vue de la sexualité, c'est tellement ouvert et tellement l'horizon des possibles et où il n'y a que le ciel qui est la limite. Et bon, voilà, donc je dirais c'est ça, c'est vraiment communiquer ensemble. Alors c'est pas facile, hein, j'en sais quelque chose.
Mais, merci pour ton expérience.
Voilà. Donc c'est
super.
Je te remercie.
Et ben merci infiniment.
Au revoir.
Merci infiniment à David de s'être prêté au jeu de cet échange que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et surtout c'est chouette de se rendre compte que du livre. Ça a interpellé des hommes qui ont voulu parler après au micro. Donc vraiment, merci pour ça, je me suis vraiment reconnaissante. N'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord du podcast. Et bien sûr, laissez des étoiles, des avis. C'est vrai que je vous le demande à chaque fois. Et là, j'ai eu quelques avis récemment, mais je trouve qu'effectivement, ça se fait un peu plus rare ces derniers mois. Et je sais qu'il y a énormément d'offres, que tous les podcasteurs vous sollicitent. Mais c'est chouette aussi pour remercier de ce travail-là, pour montrer votre soutien, de laisser des étoiles, des avis. Ça prend vraiment 2 minutes. Donc vraiment, si vous avez le temps, c'est cool et je vous remercie par avance. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.